Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, toute l'équipe est heureuse de vous savoir comme chaque semaine, nombreux et fidèles à l'écoute de votre magazine que je présente seul cette semaine. Francis Laloupo a été appelé à d'autres importantes missions et il sera de retour la semaine prochaine. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est-il en rupture avec des dignitaires musulmans? Dimanche dernier, environ 60 000 personnes se sont réunies dans le plus grand stade de la capitale Bamako à l'appel de l'un des plus influents leaders religieux musulmans du Mali. Certains parmi les organisateurs très critiques envers le pouvoir ont appelé à la démission du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga. Le gouvernement a-t-il les moyens de mettre un terme à cette tension? Analyse à suivre. Les électeurs du pays le plus peuplé du continent africain, le Nigeria, 194 600 000 habitants en 2018, appelés aux urnes pour les élections législatives et présidentielles. Pour la magistrature suprême, ils sont 73 candidats en lice, mais les plus importants sont le président sortant Mouamadou Bouhari, 76 ans, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 72 ans. Qui des deux septuagénaires réussira à convaincre, à moins d'une surprise, le plus des 84 millions d'électeurs inscrits et occuper le fauteuil présidentiel pour les 4 prochaines années? Nous en débattrons dans cette émission. Le leader de l'opposition camerounaise Maurice Kamto, accusé de rébellion, d'insurrection et d'hostilité contre la patrie, comme des dizaines de ses partisans, sont en détention. Et ses avocats s'indignent du silence de la communauté internationale. C'est dans ce climat politique tendu que la fête de la jeunesse a été célébrée cette semaine. Et à cette occasion, le président camerounais Paul Biya a appelé les jeunes à mener le combat pour l'émergence. Un tel appel peut-il être entendu alors même que le pays est en ébullition? Les débats, c'est dans un instant.
Liliane Niacha.
Issa Dim est depuis 2006 animateur de radio et de télévision. Il est notre invité cette semaine. Vous êtes également, Issa Dim, président, directeur général du Centre de formation coranique et d'éducation islamique à la Kamaton depuis 2005. Et vous êtes décoré du mérite national avec effigie abeille. À la Kamaton signifie à cause de Dieu en langue locale. Issa Dim, vous êtes également depuis 2013 donc le porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Avec nous également Denis Kouebo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, et rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour à Douala, au Cameroun. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Et nous allons commencer tout de suite l'émission avec le sujet sur le Mali. Délinquance financière, mauvaise gouvernance, incapacité à venir à bout de l'insécurité au Mali, ce sont quelques-unes des critiques formulées par des organisateurs de ce qu'ils ont appelé le meeting d'interpellation du gouvernement et de prière pour le Mali, tenu dimanche 10 février dernier dans un grand stade de Bamako. L'imam Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique et le shérif de Nioro, Boye Aïdara, deux dirigeants religieux musulmans très influents dans leur pays, ont mobilisé des milliers de personnes. Précision de Alou Diawara, le correspondant de BBC Afrique au Mali.
Le stade de 50 000 places assises refuse du monde la pelouse comprise. Hommes, femmes, jeunes, chapelains et parfois courants en main ont répondu massivement à l'appel du Haut Conseil islamique.
Oui, je suis là pour aider notre grand imam Mahmoud Diko pour lutter contre l'injustice malienne et l'insécurité au Mali.
Dans mon pays, le pays va mal.
Les leaders religieux présentent un tableau sombre de la situation dans le pays. Mamadou Diamoutani, porte-parole des organisateurs.
Déplorons que l'État, en dépit du soutien de la communauté internationale, peine à apporter une réponse appropriée à la question sécuritaire dans notre pays. Lançons un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens à pardonner, se repentir et à prier pour le Mali.
Quant au président du Haut Conseil islamique, il a déploré le fait que le Mali ne puisse pas souvent décider de son propre sort. Mahmoud Diko, visiblement très en colère.
Nous retirer notre souveraineté pendant que nous sommes assis. Non, il faut que le peuple soit debout.
On est en train de nous distraire. Il faut arrêter ça. Il faut l'arrêter et il faut l'arrêter.
L'imam Diko est revenu sur son refus de prendre les 50 millions de francs CFA, environ 76 000 euros que le gouvernement lui a proposé pour l'organisation du meeting. Pour lui, c'est un gaspillage que de dépenser l'argent public de la sorte. Alou Diawara, BBC Afrique, Bamako.
Voilà, monsieur Issa Dim, on constate qu'il y a un malaise entre le pouvoir de Bamako et des dignitaires musulmans. Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui a provoqué ce qui apparaît comme un divorce entre les deux parties?
Merci BBC Afrique, merci pour votre professionnalisme, merci aussi pour votre quête permanente d'aller à la source. Permettez-moi de faire un rappel. Vous savez, il est souvent difficile de m'y expliquer dans le conjoncturel. On parle de malaise, on parle de divorce. Non, je pense qu'il faut relativiser et comprendre d'abord ce qui s'est réellement passé. L'imam Mahmoud Diko, c'est vrai que c'est un grand, un ami du président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Et cela ne date pas qu'il est le président. Les deux hommes se connaissent il y a plus d'une trentaine d'années. Et l'imam Mahmoud Diko a toujours affirmé que le président de la République est son frère aîné. Et donc, du coup, nous sommes des Maliens. Et le problème ne se pose pas en termes relationnels. Mais tout le monde a sa légitimité. L'imam Mahmoud Diko, c'est vrai, a été élu et réélu président du Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali est la structure fêtière et qui, en réalité, joue d'interface entre le pouvoir et la communauté musulmane. Et cela ne fait pas du Haut Conseil islamique du Mali le tutelle alors du gouvernement. Donc, du coup, il y a une question d'influence, de leadership. Et l'imam Mahmoud Diko, souvenez-vous, il y a 3 mois, avait dénoncé l'enseignement de la sexualité complète au Mali. Et le ministre chargé des questions et d'éducation, ministre de l'éducation nationale à son temps, avait traité l'imam Mahmoud Diko à la limite de menteur, puisqu'il a dit que c'était des rumeurs. Il a dit officiellement sur les médias publics. Et du coup, l'imam Mahmoud Diko a divulgué ses sources. Le Premier ministre est revenu pour dire que bon, il faut mettre une commission et l'imam Mahmoud Diko a été catégorique. Il a voulu en premier temps appeler les fidèles à un meeting qui était d'information, d'explication. Et le Premier ministre Boubeli Soumaïla Boubeli Maïga, alors à travers le Haut Conseil islamique du Mali, a appelé pour torpiller ce meeting que vous avez vu les échos et les informations. Alors,
Si j'ai bien compris, c'est l'enseignement de la sexualité à l'école ou, si vous voulez plus clairement, la possible instauration de l'enseignement de l'inscription de l'homosexualité dans les ouvrages manuels scolaires qui a mis en colère le Haut Conseil islamique.
Bon, si vous me permettez de ramasser, vous allez comprendre. C'est-à-dire que c'est partant de l'option qui était de validation de l'enseignement de la sexualité complète. Donc, sexualité complète incluait l'enseignement de l'homosexualité comme étant une valeur à respecter dans un pays à 98% musulman. Donc, l'imam Mahmoud Diko a dénoncé cela et le premier ministre chef du gouvernement a voulu tout simplement alors essayer de torpiller ce premier meeting qui devrait se faire au stade du 26 mars.
Comment vous accusez le gouvernement d'avoir voulu torpiller ce rassemblement alors que le même gouvernement vous a fait une offre de 50 millions?
Si vous me laissez expliquer, vous allez comprendre.
Allez, le temps s'égrène très vite. Si vous pouvez raccourcir l'histoire, s'il vous plaît.
Le gouvernement a voulu s'opposer au fait d'informer la communauté musulmane de la volonté du gouvernement d'insérer dans le manuel scolaire l'enseignement de la sexualité. Et du coup, le premier chef du gouvernement, à travers certains membres du bureau du Haut Conseil islamique du Mali, a voulu saboter un premier meeting. Et la communauté musulmane a pris conscience. Et donc l'imam a dit que cette fois-ci, ce ne serait plus au palais de la culture, mais ce serait au stade du 26 mars pour non seulement dénoncer tous les maux qui assaillent notre pays, le problème de gouvernance, le problème de l'insécurité, l'assassinat ciblé des religieux, le problème du centre, et encore, ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est le tentative d'opposer les religieux les uns aux autres.
D'accord.
Donc du coup, l'imam Mahmoud Diko a appelé tout le monde alors pour dire
cette rencontre donc au stade de Bamako. Donc, pour vous, est-ce que il s'agissait d'un rassemblement qui visant à démontrer au pouvoir que le rapport de force n'était pas en sa faveur?
Non, vous savez, on n'est pas dans une situation de confrontation. Le Mali est un grand pays.
Mais vous venez de dire que la manifestation avait pour cadre...
Elle est démocratique.
Vous allez parler de la culture. Finalement, vous avez décidé d'aller dans un stade.
C'est pour montrer que, alors, dans un pays qui se dit démocratique, un gouvernement qui doit refléter de la légitimité populaire, si les religieux peuvent mobiliser autant de Maliens, donc le gouvernement doit prendre en compte.
Donc c'était une envie de démontrer un rapport de force pour dire au gouvernement
pas
les réformes que vous voulez apporter dans les manuels scolaires sont impopulaires.
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas seulement de montrer. Nous sommes la réalité de ce pays. Nous n'avons pas besoin de faire des démonstrations de force. Nous sommes la réalité de ce pays. Mais nous respectons le caractère démocratique, républicain, laïc de notre pays. Mais qui ne doit pas altérer nos valeurs sociétales et religieuses.
D'accord. Vous venez de dire, M. Issa Dine, que voilà, le Mali est un pays laïque. Et l'immixion ou l'arrivée des religieux sur la scène politique, est-ce que ça ne risque pas d'être mal compris? Cette arrivée ne risque pas d'être mal comprise par certains Maliens
qui
soutiennent effectivement que le Mali est un pays laïque.
Mais laïcité ne veut pas dire régner. En Europe, il y a des partis chrétiens. En Allemagne, il y a des partis chrétiens. En Centrafrique, on a vu ce qui s'est passé au nom de la religion. Mais on a vu au Zaïre tout près, l'Église s'est opposée au résultat. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est en train de créer une situation d'injustice. Musulman est égal à islamiste, musulman est incompatible à la démocratie, à la laïcité, à la république, ça il faut arrêter.
D'accord.
Je pense que nous devrons aller à l'essentiel. Le Mali, ce sont les musulmans en 93 qui ont permis à Ben Boacar Keïta d'être là où il est. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a immixtion des religieux sur la sphère politique. Je pense que ça, c'est vraiment nous insulter.
Alors, est-ce qu'à terme, le Haut Conseil islamique envisage de créer un parti politique ? Pour jouer un rôle plus accentué sur la scène politique.
Le Conseil islamique n'appartient pas à l'imam Mahmoud Diko, n'appartient pas à un chef religieux.
Est-ce qu'on envisage de créer un parti islamique? Puisqu'on venait de dire qu'en France, il y a des partis chrétiens. Les musulmans maliens ont l'ambition de créer un parti politique?
Je ne saurais le dire, mais tous les musulmans sont des citoyens. S'ils ont la volonté et qu'ils veulent créer un parti politique, je ne vois pas...
Vous les soutiendrez?
Mais c'est pas nous, c'est qui, madame?
Le Haut Conseil islamique.
Le Haut Conseil islamique a soutenu Ibrahim Boubacar Keïta pour arriver à la magistrature suprême. On n'a pas crié au scandale.
En 2013.
Et si aujourd'hui le Haut Conseil islamique du Mali, aujourd'hui que le Boubé veut imposer sa marque, eh bien, on verra à la suite. Mais les leaders religieux à qui j'ai l'honneur et le privilège de porter sa parole, l'imam Mahmoud Diko, va finir son mandat dans 2 mois. Il sera libre du Haut Conseil islamique du Mali. En tant que citoyen, il décidera ce qu'il fera et ce qui est bon pour son pays. Personne ne pourra lui empêcher.
Dernière question avant de passer la parole à Denis Kwebo et puis évidemment revenir à vous, M. Issa Dine.
Je
parlais des fidèles ou des musulmans arrivés au stade avec chapelet à la main, courant. Est-ce que cette situation ne risque pas, je veux dire, être incontrôlable à terme quand on sait qu'il y a certains qui peuvent être fanatiques ou qui peuvent être excessifs?
Mais vous savez, madame,
jusqu'où peut aller cette fronde contre eux?
Madame, moi je pense qu'aujourd'hui, on essaie de créer toutes les conditions pour diaboliser les religieux, surtout musulmans. Mais le Mali a démontré plus d'une fois que les musulmans maliens sont des gens responsables et crédibles. Nous avons fait un meeting, vous avez dit, dans un stade de plus de 60 000 personnes qui a refusé du monde. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu alors qui est antidémocratique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les musulmans maliens sont suffisamment responsables et crédibles et qu'aujourd'hui, le problème du Mali, ce n'est pas les religieux, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'incapacité du gouvernement à résoudre le problème du pays, notamment les questions sécuritaires, le front social, l'accord pour la paix, et j'en passe. Donc aujourd'hui, je pense que Soumaïla Boubé Maïga a échoué, il doit l'admettre. Maintenant, se cacher derrière des propos à la limite...
On peut avoir le sentiment, à vous entendre, que vous faites une fixation sur le Premier ministre.
Mais le Premier ministre, aujourd'hui, s'est fixé contre nous. Nous, en réalité, on n'est pas responsable de la dégradation de la situation au centre. On n'est pas responsable que le gouvernement peine à organiser des élections législatives. On n'est pas responsable que le gouvernement n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de l'application de l'accord pour le retour de la paix. On n'est pas responsable c'est que le gouvernement n'arrive pas à résoudre les problèmes des syndicats. On n'est pas responsable quand le gouvernement n'arrive pas alors à avoir un dialogue avec la classe politique. On n'est pas responsable quand le gouvernement n'arrive pas à gérer ce qu'on appelle les législatives à temps. Je pense qu'aujourd'hui, Soumaïla Boubaï Maïga doit comprendre que ce n'est pas les religieux qui lui posent problème, mais en réalité, on comprend sa fuite en avant, c'est d'essayer d'occulter, de nous diaboliser, de faire comme si c'est nous qui lui empêchons de tourner en rond, alors qu'en réalité, son problème, c'est lui-même. On l'a amené là où il est venu, je le cite, il disait que tout était clair dans sa tête, mais aujourd'hui, je pense que tout s'est brouillé dans sa tête. Et donc, du coup, nous estimons, nous, la majorité de la communauté musulmane du Mali, à commencer par le grand shérif de Nioro, l'imam Mahmoud Diko, alors qui soutient la position du shérif de Nioro, nous disons, Ibrahim Boubacar Keïta, il est le président de la République, il est libre de le maintenir ou pas, mais nous ne soutenons pas ce gouvernement.
Donc vous exigez le départ du Premier ministre Soumaïla Boubaï Maïga.
Mais bien sûr.
Pour vous, c'est une condition pour apaiser le climat et apaiser les rapports avec le président Keïta.
On a posé aucune condition, nous avons dit ce que nous pensons. À partir du moment que c'est son gouvernement qui a mené le tentative de l'enseignement de l'homosexualité au Mali et que ce ministre n'a pas été limogé, à partir du moment qu'il a cherché à torpiller le meeting du Haut Conseil islamique du Mali, à partir du moment qu'il a cherché à corrompre le président du Haut Conseil islamique du Mali, à partir du moment qu'il nous a incité en nous traitant de théâtralisation de cette activité, nous estimons qu'aujourd'hui il n'est plus légitime pour parler au nom du gouvernement du Mali.
Merci monsieur Issa Diam. On va revenir à vous tout Issa Diam, on va revenir à vous tout à l'heure. Juste restituer la position du gouvernement. Vous dites qu'on a tenté de corrompre le président du Haut Conseil. Je suppose que vous évoquez l'affaire de 50 millions de francs CFA refusés par le président du Haut Conseil. Mais le gouvernement a indiqué que ce montant visait à soutenir la mobilisation qui était organisée comme il a l'habitude de faire pour d'autres manifestations.
On connaît la procédure. Si le gouvernement veut aider, on connaît la procédure. On ne va pas au domicile d'un religieux pour lui donner un sac à l'argent.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Denis Kwebo, sur ce, je ne dirais pas bras de fer, mais sur ce malaise entre le pouvoir en place au Mali et certains dignitaires religieux, quel est votre regard sur cette situation, Denis Kwebo?
Merci,
Lilian.
Il faut peut-être replacer la question religieuse de la politique au Mali. Pas seulement en relation, en rapport avec l'Occident récent. Donc, en future de cause, j'ai entendu parler du rapport de force, et il était seulement question du rapport de force, et l'Occident en question va suffisamment concourir à
il s'en défend, hein, l'invité s'en défend en disant qu'il ne s'agit pas d'un rapport de force.
L'invité ne peut pas être comptable. De la construction de ce rapport de force. Quand vous avez affaire à la religion, vous avez affaire à un certain nombre de personnes qui, pas nécessairement un groupe organisé, doit réagir en fonction de l'état de l'attitude de l'autorité politique. S'il n'est pas permis à un regroupement religieux de s'organiser en réunion, de faire mener une campagne de citation, nous assistons nécessairement à une situation de crise. Et cette crise-là, qui peut être une crise professionnelle, ne pas nécessairement professionnelle au départ, qui produit des effets politiques. Donc, c'est une question sensible, parce qu'il s'agit quand même de la religion. Il s'agit de la foi, il s'agit de Dieu. Et je crois que les autorités de Bamako pourraient faire l'économie d'une situation de guerre qui
Merci.
Ne profitera à personne.
Merci, Denis Kwebo. On va marquer une pause obligatoire. On vous revient dans quelques instants.
Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Vous êtes sur BBC Afrique et Africa numéro 1 Paris. Vous écoutez l'émission Le Débat qui est produit par ces deux chaînes. L'émission produite donc par les deux radios partenaires. Notre invité est Issa Djim, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Il réagit depuis la capitale malienne Bamako et depuis Douala, la capitale économique du Cameroun. Le journaliste Denis Kwebo, président du SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, et rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour. Et vous pouvez écouter cette émission sur bbcafrique.com et africa1.com et puis partager vos réactions et contributions avec nous sur, à travers la page Facebook. L'adresse est facebook.com/débat-bbc-africa. Denis Kwebo, nous vous avons interrompu avant la pause. Vous disiez que voilà, il faut faire attention à cette arrivée des religieux ou cette intervention de la religion dans sur la scène politique.
Oui, et celui qui doit faire attention, c'est l'autorité politique. Il faut savoir ménager les sensibilités professionnelles et religieuses dans un pays comme le Mali, qui a connu un certain nombre de problèmes tout récemment et qui continue d'en connaître.
Est-ce que Denis Kwebo, est-ce que cet autre front était opportun au regard de la situation sécuritaire actuelle du Mali, déjà très compliquée?
Absolument. En fait, on avait à l'esprit cette situation volatile sur le terrain. Et je crois que le pouvoir de Bamako a tout intérêt aujourd'hui à recréer et ramener la sérénité renouant le dialogue avec l'imam. Je crois que quand nous avons entendu l'invité parler, on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une situation où des ventes en guerre seraient en conflit avec l'autorité politique. Il s'agit juste d'un, appelons ça peut-être malentendu, dans un contexte malien marqué par un rapport plus ou moins compliqué souvent avec
Mais lorsqu'on entend des dignitaires religieux demander le départ d'un premier ministre chef du gouvernement nommé par le président de la République, est-ce que il ne va pas au-delà de ses missions? Est-ce que voilà, il ne s'agit pas carrément de vouloir co-gérer le pays avec le président de la République?
Bon, c'est le droit le plus absolu d'un citoyen, fut-il leader religieux, fut-il imam, de poser un problème qui peut être confessionnel, mais c'est arénant politique. Parce que c'est le premier chef du gouvernement qui est chargé de ne pas gérer les questions politiques institutionnelles au jour le jour. Donc,
d'accord,
il ne faut pas penser qu'ils veulent la place du premier ministre, mais c'est que simplement le premier ministre ne parvient pas à adresser une demande qui est une demande sociale.
Merci, Denis.
Il s'agit d'une demande sociale et c'est le rôle, la responsabilité du premier chef du gouvernement, de l'adresser. Et s'il ne le fait pas selon les désirs d'un groupe, il est possible que ce groupe-là demande sa démission sans pour autant vouloir se situer à la place
Merci.
Du premier ministre.
Merci, Denis Kwebo. En tout cas,
sera comme une demande légitime.
En tout cas, la crise est ouverte. Je vais revenir à vous, notre invité, M. Issa Djim. Alors, est-ce qu'en réclamant le départ du Premier ministre, dans un contexte sécuritaire comme celui-ci, est-ce que vous ne pouvez pas donner l'impression de vouloir envenimer la situation et de jeter de l'huile sur le feu?
Bon, pas du tout. Nous sommes responsables, nous sommes maliens. Notre souci, c'est de ramener la quiétude, le vivre ensemble, de vrai en permanence, c'est notre mission. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement, comme vous l'a dit le journaliste, dans un pays malien, contexte malien, justifie les prises de position, en tout cas des religieux, en tout cas une sensibilité importante. Le Premier ministre a non seulement été maladroit et pour le départ, et ensuite nous avons les preuves évidentes que le Premier ministre se trompe de combat. Le Mali aujourd'hui doit avoir un Premier ministre qui rassemble tout le monde autour du président de la République pour résoudre les vrais problèmes. De trouver
et en quoi justement votre rassemblement a-t-il contribué à apaiser ce climat sécurité et sociopolitique?
On n'a pas soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta, on n'a pas défié le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui m'a fait l'honneur et le privilège de son porte-parole, c'est tout simplement d'interpeller qui de droit. Dans un pays démocratique, ça c'est un droit de tout le monde. Interpellation, mais prier pour la paix et la réconciliation. Nous avons dénoncé des mots qui jurent avec nos valeurs sociétales et religieuses. Nous sommes dans notre mission, dans notre rôle. Aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas de réponse. Et puisqu'il n'a pas de réponse, il se cache derrière le président de la République pour essayer d'en faire comme si on veut s'attaquer au président de la République. Non. Nous, aujourd'hui,
dans votre cible, c'est bien le Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga.
Mais le Soumaïlou Boubé Maïga ne sait que faire ce qu'il a l'habitude de faire. Diviser pour régner. Il veut rester. Donc, tous les coups sont bons pour qu'il reste. Maintenant, si vous me laissez répondre à cette question, dans le contexte malien, personne n'a intérêt au chaos. La communauté internationale, ni les Maliens nous-mêmes, et ni les simples citoyens. Aujourd'hui, le souci du Malien, c'est sa sécurité. C'est son peu quotidien, c'est de l'emploi, c'est la sécurité, c'est le vivre ensemble, c'est de résoudre des questions liées aux crises post-électorales, l'élection de l'Assemblée nationale qui est déjà périmée, l'application de l'accord de paix qui n'arrive pas, le centre qui est en train de se disloquer, et aujourd'hui le Premier ministre ne trouve autre chose que d'insulter les religieux. Je pense que cette fois-ci, il est trop
loin. Vous énumérez toutes les crises auxquelles le Mali fait face, les crises...
Est-ce que ce que j'énumère n'est pas vrai? C'est pas fondé?
Je ne sais pas, je n'ai pas à donner mon opinion.
Pas votre opinion, allez sur le site et voir la carte politique du Mali, économique et sociale.
De toute façon, vous décrivez une situation politico-sécuritaire peu réduisante de votre pays. Mais justement, est-ce que le rôle d'une organisation musulmane aussi puissante et crédible comme le Haut Conseil islamique et le rôle des figures morales telles que celles qui ont appelé au rassemblement n'est-il pas justement d'apaiser et de faire, disons, des missions de bons offices dans des cas, en cas de malentendu?
L'apaisement passe d'abord pour reconnaître que ce rôle, comme vous l'avez dit, moral, doit être inscrit et respecté en tant que tel. Le shérif de Nioro, quand il a pris position pour le président Ibrahim Boubacar, qui est allé soutenir à être président de la République, alors personne n'a crié.
C'était en 2013.
C'était pareil aussi pour l'imam Diko. Oui. Et si les mêmes...
Mais pour 2018, vous avez soutenu un candidat de l'opposition.
Non. Je crois que c'est les propos de Soumaïlou Boubé.
Le shérif a soutenu clairement...
C'est un citoyen.
Un candidat de l'opposition et l'imam Diko s'est abstenu.
L'imam Diko s'est abstenu. Maintenant, ça c'est des positions personnelles comme des Maliens qui ont le droit de vote. Et maintenant, sur le fond, c'est quoi? Le fond, aujourd'hui, Soumaïlou Boubé Maïga est le responsable. Son gouvernement est le responsable.
Est-ce qu'on peut arrêter de parler de M. Soumaïlou Boubé Maïga, M. Diko? On a bien compris que vous en voulez à M. Maïga, vous demandez sa démission. Ma question était de savoir, le rôle d'une organisation musulmane aussi puissante que la vôtre, est-ce que justement, ce n'est pas aussi le rôle des figures morales qu'on vient de citer? Est-ce que leur rôle n'est pas d'apaiser et puis de jouer peut-être des missions de bons offices et d'être comme des médiateurs plutôt que d'être au centre d'une crise politique?
Moi, je ne vous comprends pas. Quand on est musulman, on nous cantonne dans le moral. Mais moi, je vous rappelle que le Mali n'a pas donné un statut
religieux. On aurait pu poser la question aussi à Senko, par exemple, pour la RDC.
Si vous me laissez moi répondre, vous posez la question, vous répondez à ma place.
Non.
Laissez-moi parler.
Allez-y.
Voilà. Moi, ce que je veux vous dire, le Mali est un pays, nous le savons, démocratique, laïque, mais des valeurs sociétales et religieuses. Les religieux ont soutenu Ibrahim Boubacar Keïta. Cela n'a pas été diabolisé. Mais aujourd'hui, si les religieux dénoncent son gouvernement, en quoi cela pose problème? Maintenant, la question que vous dites morale, oui. Si le gouvernement voulait que les religieux restent dans le moral, le gouvernement aurait dû songer à donner un statut aux religieux. Les Maliens, les religieux musulmans n'ont pas de statut. Alors s'ils n'ont pas de statut, ils ont l'opinion en tant que Maliens. S'ils ne sont pas d'accord, ils dénoncent.
Qu'ils peuvent exprimer quand ils veulent.
Pardon?
Des opinions qu'ils peuvent exprimer en toutes circonstances et quand ils le souhaitent.
Mais pourquoi pas?
D'accord. Et qu'attendez-vous aujourd'hui du pouvoir pour apaiser le climat? Quelles sont, selon vous, les solutions ou les conditions pour recréer la confiance?
Il n'y a qu'une seule solution. Si Ibrahim Boubacar Keïta, je ne sais pas moi de lui dire ce qu'il a à faire, mais si je me permets, sans prétention aucune, de dire ce que je pense. Aujourd'hui, il doit comme il a dit, il est au-dessus de la mêlée. Et il doit chercher un Premier ministre au-dessus de la mêlée. Un Premier ministre qui est là, lui, à lui servir et non à se servir lui-même. Parce que le problème aujourd'hui, il faut un Premier ministre qui, aujourd'hui, vient avec une feuille de route claire. Rassembler les Maliens autour du leadership du président de la République pour conjurer le problème de la crise sécuritaire, pour améliorer la sécurité des personnes, des biens, mais créer aussi des conditions de dialogue vraies avec tous les partenaires, y compris la communauté internationale, pour aider le Mali à aller de l'avant. Les partenaires sociaux, les partenaires techniques, mais aussi d'ouvrir un dialogue avec l'opposition démocratique. Et c'est cela le salut du Mali. Mais Ibrahim Boubacar Keïta, s'il va dans cette logique, il sera adulé et le peuple, il retrouvera vraiment sa confiance avec le peuple. Mais s'il pense que, bon, ce n'est pas à nous ou au quiconque de lui dire ce qu'il a à faire, mais on est en démocratie, je pense que le dernier mot reviendra au peuple.
D'accord. Ce que vous souhaitez, c'est une grande conférence qui réunit tous les acteurs de la classe.
Mais de créer un cadre de dialogue avec toutes les forces vives de la nation sans démagogie. Cela permettra vraiment alors d'aller à l'essentiel, qui est de retrouver la confiance entre le gouvernant et le gouverné, entre les leaders religieux, de rejouer leur rôle pleinement, mais permettre aussi à la société civile alors de sortir dans ce jeu d'inféodation et de voir les vrais problèmes, c'est-à-dire que la question du Nord, la question du Centre, et les partenaires sociaux qui sont les syndicats et autres, et aussi qui de booster l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, cette recette, ce gouvernement-là est à court d'arguments. Il ne fait que tout simplement de la diversion. Je pense que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de bon sens et d'aller à l'essentiel. Gouverner,
merci.
C'est de trouver des solutions. C'est eux qui disent qu'ils peuvent, alors ils doivent, s'ils ne peuvent pas, mais ils n'ont qu'à partir. C'est si simple que ça.
Merci beaucoup, M. Issa Dim. Restez avec nous, le débat se poursuit.
Le débat, Africa BBC.
Issa Dim, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali, est notre invité cette semaine. Il intervient depuis le Mali. Et Denis Kwebo, président du Syndicat national des journalistes du Cameroun et rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour à Douala, est en ligne de Douala, la capitale économique du Cameroun. Pour écouter ou réécouter cette émission, cliquez simplement sur nos sites internet respectifs bbcafrique.com et africa1.com, puis faites-nous part de vos commentaires sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa. Et nous allons parler à présent du Nigeria présidentiel qui va convaincre le plus d'électeurs. Cela devrait se jouer entre le président sortant Muhammadu Buhari, à la quête de son second et dernier mandat de 4 ans, et l'homme d'affaires et ancien vice-président Atiku Abubakar, de 4 ans son cadet. Face à eux, 71 autres candidats qui, eux, sont moins visibles et ne font pas le poids. 85 millions d'électeurs enregistrés vont les départager. Quel que soit le vainqueur, les principaux défis à relever sont sécuritaires et économiques, comme le soulignent ces électrices dont les propos ont été recueillis par le bureau de la BBC à Lagos.
We need peace.
Nous avons besoin de la paix, de la stabilité. Notre objectif est donc de voter pour quelqu'un qui puisse donner la paix au Nigeria. Les gens souffrent, il y a la faim, il n'y a pas d'abri, pas d'école, rien. Ce que je veux, c'est que les denrées soient moins chères, que le coût de la vie baisse, que le loyer soit réduit parce que c'est trop cher.
Voilà, Denis Kwebo, vous connaissez très bien le Nigeria, hein, où vous avez fait vos études universitaires. On a suivi les attentes de ces électrices qui se résument en sécurité et amélioration des conditions sécuritaires. On va en parler tout à l'heure. Mais 73 candidats sont en lice et on entend très peu la voix des 71 autres. Tous les analystes, Denis, soutiennent que c'est plié pour ces 71 candidats. Est-ce qu'il faut comprendre que l'hypothèse d'une surprise est totalement à écarter?
Bien évidemment, Liliane, il n'est pas possible au Nigeria aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de compter sur un président autre que l'un des candidats des deux principales formations politiques du pays, à savoir le PDP. Ce n'est pas possible, d'autant plus que le jeu politique au niveau de la présidentielle peut être apparemment un jeu d'homme, mais il s'agit d'un jeu de composition et de manœuvre politique entre les différentes composantes sociologiques, ethniques. Et évidemment, on peut regarder un peu dans toute cette mafia qu'on appelle la mafia de Kaduna, qui est aujourd'hui partagée entre deux candidats de confession musulmane. Souvent, ce n'est pas le cas. On a soit un candidat du Nord, soit un candidat de l'Est ou de l'Ouest. Il s'agit de cela.
Ouais, donc, c'était le cas en 2015, avec un candidat chrétien. Oui, et un candidat musulman.
Oui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça complique à la donne. Sauf que vous allez voir que les deux candidats, les deux principaux candidats, à Victor Boissard, puis le président Bouhari, comptent sur des alliances régionalistes. Vous avez suivi la dernière conférence en date. Je pense celle des identités du État du Niger qui déclarent leur soutien au candidat à Victor Boissard. Et dès que vous avez des identités du sud-est du Nigeria qui déclarent leur candidature, leur soutien à un candidat, cela veut dire que ce candidat est soutenu indirectement ou directement par l'ancien président Jonathan, qui a beaucoup plus d'appui dans les milieux du Delta. Donc, c'est surtout cela
Jonathan qui est chrétien.
Jonathan qui a déterminé la suite du soutien demain. On peut dire, si vous prenez, nous on est bien dans la politique intérieure du Nigeria, mais Bouhari a été un échec pour beaucoup, puisque son défi était ne pas rétablir la sécurité sur le pays. Mais ces derniers mois, on se rend compte qu'il y a eu des surenchères et à Kamil, au nord-est du Nigeria, et du Nigeria avec Boko Haram. Et cette situation sécuritaire qui s'est dégradée considérablement peut effectivement pencher pour un candidat, notamment à Sekou Abubakar.
D'accord. Mais Denis, on va passer la parole tout à l'heure à notre invité, mais je voulais vous demander, hein, le renouvellement de l'Assemblée nationale a également lieu en même temps que la présidentielle, et les élections des gouverneurs des États suivront en mars prochain. Vous parliez tout à l'heure des conditions sécuritaires qui se sont dégradées ces derniers mois, et pourtant on n'a pas entendu de voix appelée au report ou à la tenue de ces élections, au report de ces élections, comme cela, ou à la non-tenue de ces scrutins, comme on en a vu dans d'autres pays où la sécurité est problématique. C'était le cas au Mali, la Centrafrique, ou encore même récemment le Cameroun.
Alors, effectivement, je pense que votre question renvoie à une réalité démocratique libérienne qui est éprouvée, parce que au pays de... Je veux dire, au Nigeria, ça ne se passe pas comme partout ailleurs en Afrique, qui sont véritablement en démocratie. Et la mobilisation à la base est telle qu'on ne peut pas envisager une situation de report de l'élection, même partiellement, parce que...
Même partiellement, comme on en a vu en RDC récemment.
Non, ce n'est pas c'est pas exactement la même chose. Au Nigeria, même sur le régime militaire, lorsqu'il était encore, il y a toujours eu cette démocratie-là. Même sous la dictature, il y a cette démocratie de la parole. La société civile nigériane, la force des institutions, les lois du pays sont faites pour qu'il ne soit plus donné à une personne, à une institution quelconque, ou la possibilité de faire.
Dans les institutions sont démocratiques, sont très fortes. Les institutions sont démocratiques et voilà, la démocratie est plus ancrée qu'ailleurs. On va écouter notre invité, M. Issa Dim, sur cette élection, hein, sur ces élections, on va dire, générales au Nigeria. Je le disais, M. Issa Dim, on constate que les conditions sécuritaires ne sont pas idéales, mais on n'a pas entendu même la communauté internationale s'inquiéter de cela ou à l'intérieur du pays, des voix se lever pour demander le report de ce scrutin.
Merci. D'abord, le Nigeria est un grand pays, un pays souverain. C'est le Nigeria qui sont... Alors, c'est eux seuls qui apprécient le niveau sécuritaire pour aller aux élections. Les hommes politiques, les hommes qui gèrent la sécurité au Nigeria, c'est un pays, un grand pays. en Afrique de l'Ouest, donc qui méritent respect. Alors, je pense que cette question, il faut qu'on laisse les Africains agir par eux, réfléchir par eux et décider par eux. Cette communauté soi-disant internationale, en réalité, vraiment, c'est quelque chose que, comme disait De Gaulle, c'est un machin. Ils sont là seulement pour tout simplement alors instrumentaliser, expolier l'Afrique de ses ressources.
Même lors de ce rassemblement, vous avez dénoncé le fait que le Mali ne soit pas souverain.
On a dit qu'on est en train de nous dépouiller de notre souveraineté.
Voilà.
Je crois que les mots ont leur sens.
Absolument.
Donc, quand vous avez dit que le Nigeria, j'ai dit que le Nigeria est un grand pays, un pays souverain, c'est à eux. Vous avez dit qu'on ne parle pas alors de la sécurité. C'est le Nigeria qui doit apprécier les niveaux sécuritaires pour aller à ces élections. Donc le Nigeria est un pays souverain, un pays fort, un pays vraiment puissant qui aujourd'hui n'a besoin que des choses fondamentales pour être un exemple pour l'Afrique. C'est-à-dire que d'améliorer la gouvernance et surtout aussi de créer des conditions solides des institutions, comme vous l'avez dit, je suis d'accord sur ce point avec vous, des institutions véritablement démocratiques. Donc l'ancrage démocratique permettra de lutter contre les extrémismes de tous bords, contre l'intolérance, contre la mauvaise gouvernance. Je pense que c'est cela l'Afrique doit, en synergie, alors conjuguer ses efforts, d'asseoir une culture démocratique, que la prise du pouvoir ne soit pas une situation conflictuelle qui va faire des milliers de déplacés, des morts, des désolations, que ça soit tout simplement témoin de passage et que le maire gagne dans ces élections.
C'est ce que je souhaite. Est-ce que vous pensez que malgré ce contexte sécuritaire, tout va bien se passer le jour du scrutin et qu'on n'assistera pas, disons, à des attaques plus fortes, à une perturbation de ce processus?
Je ne suis pas le patron de la sécurité au Nigeria, mais je le souhaite. Je suis un Africain et je souhaite pour le Nigeria un pays frère, un pays voisin, un pays qui partage le même espace
de CDAO.
Donc je pense que je souhaite pour le maire, quand le Nigeria se porte bien, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui se porte mieux. Donc moi je souhaite qu'il y ait des élections vraiment acceptables, des élections qui les citoyens retrouveront vraiment leur bulletin dans les urnes, que les dirigeants politiques mettent les intérêts alors du Nigeria au-dessus de leurs intérêts politiques. C'est cela le meilleur exemple. C'est ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui pour lutter contre le flux massif des innocents dans les côtes pour aller en Europe, aller chercher un éventuel vie meilleure qu'ils ne trouveront pas, et d'asseoir une culture démocratique. C'est ce que je souhaite pour le Nigeria et pour tout le reste du continent d'ailleurs.
Merci, M. Issa Dim. Denis Kwebo, au Nigeria, la moyenne d'âge est de 15,3 ans, selon des informations de 2017 basées sur une publication annuelle de la CIA, l'agence d'intelligence américaine, avec des détails concernant tous les pays. Comment comprendre que deux candidats septuagénaires, malgré cela, séduisent autant les électeurs et réussissent carrément à éclipser les autres candidats?
Je crois que j'ai entendu parler de l'influence extérieure sur la politique nigériane. Depuis au moins 30 ans, on a les mêmes acteurs politiques de premier plan dans ce pays. Donc ça n'a pas changé pratiquement depuis les années 80. Et aujourd'hui, il est très difficile pour un jeune candidat de prendre la tête de l'une des deux principales formations politiques du pays. Ça, c'est bien. Et le Nigeria étant ce géant, il est pratiquement impossible, compte tenu des contradictions internes, d'avoir, n'est pas, ce métier-là en dehors de ce qu'on appelle les barons politiques.
Rapidement, plus que quelques minutes pour parler du Cameroun sans transition, s'adressant à ses compatriotes jeunes, dimanche soir à la veille de la fête de la jeunesse, le président camerounais Paul Biya les a notamment appelés à s'engager. Il tenait ses propos alors même que la crise anglophone a privé les jeunes camerounais de deux régions en crise de la célébration, limitée à un bref défilé avec une poignée de personnes. Paul Biya s'exprimait aussi au moment où le chef de file de l'opposition, Maurice Kamto, est toujours en détention détention, arrêté depuis le 26 janvier dernier avec certains membres de son état-major après une manifestation à Yaoundé. Il a été inculpé et transféré dans une prison de la capitale. Vous êtes au Cameroun, Denis, on va commencer avec vous avant de passer la parole à Issa Dim, notre invité. Autant dire, hein, Denis, que la fête de la jeunesse le 11 février dernier dans votre pays a été célébrée dans un contexte politico-sécuritaire en ébullition. Est-ce que ce contexte est favorable à l'écoute des jeunes? Est-ce que les jeunes peuvent être attentifs? Est-ce qu'ils pouvaient être attentifs au discours du président de la République dans un tel contexte? Est-ce qu'ils avaient la tête à la fête?
Ben, il ne faut pas qu'il y aurait beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui ne se retrouvent pas dans la politique. On n'est pas le président, parce qu'il ne suffit pas de les appeler à participer, mais pas à l'idéal de l'urgence pour que cela soit fait. Comme tout à l'heure, on évoquait l'état du Nigeria, le président actuel n'a pas été en mesure, en 36 ans, de fournir l'infrastructure de base, les facilités de base nécessaires à l'épanouissement de la jeunesse. Le taux de chômage est de plus élevé en Afrique. Les entreprises ouvrent de moins en moins au Cameroun. L'administration ne recrute plus véritablement. Quand vous voyez le nombre de jeunes Camerounais qui partent de l'université, de grandes écoles chaque année, et en rapport avec les places disponibles, c'est pratiquement impossible à un jeune de réveiller l'avenir dans son pays.
Vous voulez dire que toutes ces conditions font que les jeunes sont distraits, même le jour de leur fête, qu'ils ne peuvent pas être attentifs au discours du président de la République? Parce qu'il y a tous ces problèmes-là qui les préoccupent davantage.
Ce que les jeunes attendent, c'est l'offre d'emploi, c'est les opportunités. C'est nulle part dans le discours du président, il n'y a que question d'opportunités nouvelles pour tenter les milliers de jeunes qui attendent. Mais vous avez abordé une question lié au déroulement même de la fête. Vous savez qu'il y a au nord et au sud-est, il y a des zones où il y avait à peine quelques dizaines d'élèves pour défiler. Mais là, les Camerounais, indépendamment de la demande sociale, politique qui est exigée et pas des autorités, sont jaloux de leur pays. Donc, ce qui compte en tout état de cause, ce qui est effectivement un acte républicain manifesté par la présence des autorités administratives, des autorités militaires civiles.
Sous haute sécurité.
Des jeunes à la place des fêtes, même si c'est sous haute sécurité, il s'agit quand même de ça, de réaffirmer que le Cameroun est un pays souverain.
Merci.
Un pays qui doit tenir debout malgré
la situation.
Des conflits, des contradictions internes. Et peut-être qu'il faut dire que le chef de l'État actuel doit réinventer son discours en matière d'offres à la jeunesse. Parce que ça fait 36 ans.
Voilà.
Quand vous êtes dans la rue, vous avez l'impression que les gens sont excédés. Et c'est pour ça qu'on peut aussi expliquer en partie toute cette tension-là où les jeunes, en désespoir de cause, peuvent rallier n'importe quelle...
Merci, Denis. Merci. On nous reste très peu de temps. On va écouter... Monsieur Issa Dim, voilà, sur cette célébration, on va dire à tout prix, de la fête de la jeunesse.
Ben, je respecte le peuple camerounais dans ses choix de décision de qui doit faire quoi. Mais en tant qu'Africain, je m'exprime sur le continent africain où le Cameroun fait partie. Je crois que l'Afrique est malade de ses dirigeants d'une façon générale. Parce que dirigeant suppose tout simplement donner de la vision, donner de l'avenir à ses citoyens, rentrer dans l'histoire et sortir par la grande porte. Et pas coûte que coûte s'accrocher au pouvoir, vouloir confondre le pouvoir avec
le
destin.
Vous faites allusion à la longévité de M. Biya?
Non, je ne parle pas de Cameroun, j'ai essayé d'être plus global. semble vraiment.
Vous évitez de citer les noms.
Je n'hésite pas, ma position me demande certaines réserves. Et tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit aller au-delà des hommes. L'Afrique est malade de ses dirigeants. L'Afrique doit repenser et mettre l'intérêt du peuple au-delà de leur longévité, qu'elle soit politique, économique, etc. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin vraiment d'opportunités de prouver sa capacité.
Merci.
La jeunesse africaine. Et je crois que l'Afrique doit relever ses défis. Et ni que ce soit le Mali, le Cameroun ou le Nigeria, nous devons conjuguer nos énergies pour aller de l'avant et vendre une Afrique meilleure, une Afrique qui respecte la tolérance, l'expression plurielle, s'ouvrir sur le monde tout en restant nous-mêmes.
Merci. Denis Kouébou, en 30 secondes, hein, on a parlé de l'arrestation de Maurice Kamto, voilà, qui n'a pas suscité de réaction, hein, vive au Cameroun. Est-ce qu'il a la popularité qu'on lui prête ou qu'il croit avoir, Denis Kouébou? Et le silence des Camerounais observé après son arrestation, ainsi que certains membres de son parti, n'a-t-il pas pu justifier la décision des autorités de finalement le transférer en prison?
Sur la question de la popularité, dans l'absolu, on aurait pu la mesurer, pas avec l'interpellation, puis transférant de Maurice Kamto à la prison de Conakry à Yaoundé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même eu le phénomène de Maurice Kamto qui était deuxième à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, sans être sur le plan politique et le chef de file de l'opposition. Donc il n'y a aucun élément qui fait de Maurice Kamto le chef de file de l'opposition, parce que le AMRC, le Mouvement pour la Résistance du Cameroun, a un député à l'Assemblée nationale, alors que le SDF en a plus d'une quinzaine. Maurice Kamto n'a pas de sénateur, le RFC n'en a pas, alors que le SDF, qui est la principale formation de l'opposition camerounaise, a 7 sénateurs. Donc, je crois qu'il faut la popularité du RFC à la taille de la réaction qu'on a observée depuis l'intervention de ces...
Merci, Denis.
Mais quand même, au-delà du RFC, beaucoup de Camerounais estiment que la solution idéal, ce ne serait pas d'envoyer Maurice Kamto et des dizaines de jeunes
en prison. Merci, Denis.
Ils sont sortis manifester. Il y a une autre possibilité de régler ces questions-là, parce qu'à un problème politique,
merci,
il faut une solution politique. On ne peut pas avoir une suite judiciaire à une manifestation
politique. Merci, Denis Kouébou.
On a pour le Cameroun qui essaie de se stabiliser après ce qui s'est passé en 2018.
Merci beaucoup, Denis. On va à présent écouter la réaction de nos auditeurs sur Facebook, recueillie et présentée par Thierry Richard Mbouekidina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali, Fotigui Sangaré aimerait savoir si après la sortie de Boubey lors du meeting de l'imam Diko, les musulmans rêvent maintenant de conquérir le pouvoir. Joseph Goumo, quant à lui, se demande si les leaders religieux prévoient une autre mobilisation et Diakité Haruna Bakari, de son côté, souhaite connaître le lien qu'il y a entre le shérif de Nioro, l'imam Diko et Ousmane Madani Haïdara. Sur le Nigeria, Charles Bazema estime que le président sortant est bien parti pour être réélu. Pour notre auditeur de Ouagadougou, en Afrique, l'opposition n'a toujours pas compris que l'union fait la force. Merci à Apache Boyoti, Cissé le Cerveau Souleymane et Innocent Santi Lalou qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci à vous, Thierry Kéchambou Kidinia. Issa Dim, en 30 secondes, un mot de conclusion.
Mais un mot de conclusion, je remercie BBC Afrique pour sa volonté de donner l'information à tous les Africains partout où ils se trouvent. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit aller de l'avant, une Afrique qui s'ouvre sur le reste du monde, qui essaye vraiment non seulement de prendre ses valeurs sociétales, mais surtout aussi de se projeter pour un monde meilleur, être une Afrique qui promet de l'emploi à la jeunesse et qui essaie d'asseoir des valeurs de démocratie, de tolérance, de dialogue.
Merci.
Je pense que cela fera de l'Afrique un continent meilleur. Merci.
Merci à vous, Issa Dim, notre invité cette semaine, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Denis Kwebo, président du Syndicat national des journalistes du Cameroun et rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour à Douala, en ligne de Douala. Réalisation Abdou Diop, chargé de production Thierry Richard Mbouekidina. Vous pouvez écouter cette émission ou réécouter sur bbcafrique.com et africa1.com. Et partagez vos commentaires qui sont donc attendus sur facebook.com/débat BBC Africa. Excellent week-end et à la semaine prochaine avec Francis Laloupo à mes côtés. Au revoir.